Il était 2 heures du matin ce 3 mars 1896, quand un vacarme de tous les diables fit sortir la bonne d'abord, ma grand-mère ensuite sur le seuil de leur chambre. On tambourinait furieusement à la porte du 19 Washington Square North. J'étais au lit, dans cet état flottant entre veille et sommeil, quand on n'est plus complètement ivre, mais qu'on n'a pas encore réglé leur compte aux dernières vapeurs d'alcool. J'ignorais qui frappait de la sorte, mais je savais bien que c'était pour moi et non pour ma grand-mère. Enfonçant le nez dans les têtes de toile qui enveloppaient mes oreillers, je priais pour que le fâcheux se lasse et aille se faire pendre ailleurs lorsque j'entendis la bonne hurler « Ce potin devient effrayant! Faut-il que j'y aille, madame ?»«
Certainement pas, Harriet !» répondit la voix froide et hautaine de ma grand-mère. « Pensez donc! C'est encore John qui a dû omettre d'honorer l'une de ses dettes de jeu. Allez plutôt me le réveiller !»
Après la rupture de mes fiançailles avec Miss Julia Pratt de Washington 2 ans auparavant, j'avais pris pension chez ma grand-mère et plus le temps passait, plus la matine devenait suspicieuse quant à l'emploi que je faisais de mes heures de loisir. Je lui avais pourtant répété maintes et maintes fois qu'étant chargé de la rubrique criminelle au New York Times, j'étais contraint de visiter les quartiers malfamés de la ville et de fréquenter la frange la moins recommandable de sa population. Mais elle se rappelait par trop mes frasques de jeunesse pour avaler cette explication qui, j'en conviens, ne brille pas par son originalité. Le tapage que je faisais régulièrement en rentrant au bercail conforta progressivement mon aïeul dans des soupçons qui, bientôt, devinrent certitude. Ce n'était pas par nécessité professionnelle mais bien par goût que je fréquentais chaque soir les dancings et les tripots du Tenderloin, le quartier chaud de la ville. Ayant entendu sa remarque à propos de mes dettes de jeu, je sentis qu'il était essentiel pour moi de donner l'image d'un homme sobre et responsable. Bientôt, le pas d'Harriet approcha de ma chambre et, jugeant opportun de prendre les devants, je sautai dans un peignoir chinois noir, aplati sur ma tête mes cheveux ébouriffés, ouvris prestement la porte, juste comme la bonne arrivait et dit paisiblement « Voyons, Harriet, à quoi rime ce remue-ménage ?» En relisant des notes pour un travail, je me suis rendu compte qu'il me manquait plusieurs documents oubliés au bureau. Ce doit être un coursier que le journal me dépêche, voilà tout.
La bonne acquiesça d'un hochement de tête confus et je m'élançai sur l'épais tapis persan qui garnissait l'escalier.
« Est-ce toi, John ?»
tempêta ma grand-mère.
« Non, bonne maman, c'est le docteur Holmes. »
Le docteur Holmes était un ingénieux escroc doublé d'un meurtrier particulièrement sadique qui, à l'époque, attendait la pendaison à Philadelphie. Or, allez savoir pourquoi, la terreur de ma grand-mère était de voir cet individu s'évader avant l'heure de son rendez-vous avec la potence et faire le voyage jusqu'à New York dans le seul but de l'oxyre. Arrivé à la porte de sa chambre, je la gratifiai d'un petit baiser sur la joue qu'elle accepta volontiers, mais sans esquisser un sourire.
« Ne sois pas insolent, John. C'est ton côté le plus horripilant. Et ne t'imagine pas que tu vas m'adoucir en me faisant du charme. »
Les coups reprirent de plus belle à la porte en même temps qu'une voix d'homme, apparemment jeune, hurlait mon nom à tue-tête. Le pli de contrariété s'accentua au front de bonne maman.
« Qui cela peut-il être et que diable peut-il vouloir ?»
L'entêtement de ce garçon ne me disait rien de bon, mais puisque j'avais commencé dans la voie du mensonge, force me fut d'y rester.
« Je pense que c'est un coursier du bureau. »«
Un coursier du bureau ?»
répéta ma grand-mère sans croire un traître mot de ce que je lui racontais.
« Mais dans ce cas, va donc lui ouvrir !»
Rapide mais prudent, je dévalai le reste de l'escalier.
« Monsieur Moore !»
brailla de nouveau l'entêté en ponctuant sa sérénade de force coups de pied et de poing dans la porte.
« Je dois absolument parler à Monsieur John Schuyler Moore !»
Impossible d'identifier cette voix. Pourtant, j'étais sûr de la connaître. La constatation ne m'apporta pas le moindre réconfort, pas plus que la jeunesse apparente de l'importun. Les voleurs et les tueurs les plus dangereux dont j'avais croisé la route au début de cette année 1896 n'étaient ni plus ni moins que des gamins. Je m'avançai dans le vestibule dallé de marbre noir et blanc et posai la main sur le loquet.
« Qui est là ?»«
C'est moi, monsieur. C'est Stevie. »
Je laissai échapper un soupir de soulagement et ouvris la lourde porte de bois.
Dehors, dans la clarté blafarde d'une lanterne à gaz, la seule de la maison que ma grand-mère eût refusé de faire remplacer par une ampoule électrique, se tenait Stevie Taggart. Surnommé la Teigne, Stevie avait été, pendant les 11 premières années de son existence, le cauchemar de la moitié de la police new-yorkaise. Puis il s'était amendé, grâce à l'aide de mon ami, l'éminent aliéniste Laszlo Kreisler, qu'il avait alors engagé comme cocher et estafette. Stevie s'appuyait à l'une des colonnes blanches qui encadraient l'entrée de la maison. Il était visiblement affolé et avait du mal à respirer normalement. Ses longs cheveux bruns et raides étaient collés par la transpiration. Regardant par-dessus son épaule, je vis la petite calèche canadienne de Chrysler. La capote de la voiture noire était repliée, et entre les noirs brancards de l'attelage, Frédéric, le hongre de même couleur, était lui aussi ruisselant d'une sueur qui fumait dans l'air frais de la nuit. « Que se passe-t-il, Stevie? Où est le docteur Chrysler ?»«
Vite !»
répondit Stevie hors d'haleine.
« Le docteur vous fait demander de venir avec moi. »«
Maintenant ? Mais il est 2 heures du matin. Et où dois-je vous suivre ?»«
Venez, monsieur. Venez vite !»
À l'évidence, Stevie n'était pas en état de me donner plus amples explications. Je l'invitai à m'attendre un instant et remontai dans ma chambre. Pendant que je m'habillais, ma grand-mère me cria à travers la porte qu'elle aimait autant ignorer ce qui nous appelait dehors à pareille heure, ce singulier docteur Chrysler et moi, mais que ce n'était certainement pas une affaire bien convenable. Faisant de mon mieux pour l'ignorer, je ressortis en serrant autour de moi mon manteau de tweed et sautai dans la calèche. Sans même me laisser le temps de m'asseoir, Stevie fit partir Frédéric d'un claquement de fouet et je tombai à la renverse sur la banquette de cuir brun foncé. Je m'apprêtais à le réprimander lorsque, de nouveau, je fus saisi par son expression hagarde. Je me tus donc et me cramponnais tandis que l'attelage démarrait à une allure terrifiante sur le pavé de Washington Square. Puis les cahotements s'atténuèrent quelque peu lorsque nous débouchâmes sur Broadway et son revêtement de larges dalles planes. Nous étions donc en route vers le sud-est, en direction de ce quartier de Manhattan, où Laszlo Kreisler exerçait son art et où plus on s'enfonçait avant dans la zone, plus les logements devenaient bon marché et la vie sordide. J'ai nommé le Lower East Side. Pendant un moment, je m'imaginais que peut-être il était arrivé quelque chose à Laszlo. Cela aurait sans nul doute expliqué la rage avec laquelle Stevie conduisait et fouettait Frédéric. Ce n'était pas dans ses habitudes. Bien au contraire, il avait tendance à être doux avec le cheval. Chrysler avait été le premier être humain à obtenir de Stevie autre chose qu'un coup de poing ou un coup de dent. Et c'était indiscutablement grâce à lui que le jeune gaillard avait pu sortir de cet établissement de Randall's Island, pudiquement appelé « centre d'accueil pour garçons ». Non content d'avoir été qualifié par les services de police de cambrioleur, pickpocket, ivrogne, dépendant de la nicotine, rabatteur, celui qui appâte le pigeon pour une équipe de parieurs professionnels, est taxé d'inclination congénitale à la brutalité et à la destruction, alors qu'il était à peine âgé de 10 ans, Stevie avait frappé et sérieusement abîmé un gardien de Randall's Island qu'il avait, disait-il, agressé. Dans le langage journalistique de l'époque, « agression » se traduisait presque toujours par « viol ». Le garde étant marié et père de famille, c'est, pour commencer, la crédibilité du jeune garçon, puis bientôt sa santé mentale, qui avait été mise en cause. Alors était entré en scène l'un des psychiatres parmi les plus réputés du moment et qui faisait autorité en tant qu'expert auprès des tribunaux. Lors des audiences d'évaluation de la santé mentale de Stevie, Laszlo Kreisler avait tracé une peinture magistrale de ce qu'avait été la vie de cet enfant, abandonné dans la rue à l'âge de 3 ans par une mère opiomane, qui, au lieu de subvenir aux besoins de son fils, avait choisi de devenir la maîtresse du Chinois qui lui fournissait sa drogue. La démonstration avait fortement impressionné le juge, lequel en avait conçu des doutes sur la déposition du gardien blessé, mais n'avait accepté de relâcher Stevie qu'après que Laszlo eut proposé d'embaucher le jeune garçon et se fut porté garant de sa conduite à venir. J'avais jugé, à l'époque, que c'était pure folie, mais, au bout d'un an, force m'avait été de reconnaître que Stevie n'était plus le même.